Réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos collègues ou vos supérieurs, tous ont des personnalités différentes. Toutefois, certaines personnes sont plus difficiles à vivre au quotidien. Elles mettent souvent les autres mal à l'aise. Alors que faire pour bien vivre avec de telles personnes? Isidore Bamanek, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Alors, vous êtes éducateur à la vie, nous parlons aujourd'hui de comment bien vivre avec des personnes à caractère difficile. Alors, comment peut-on arriver à déterminer que telle ou telle personne a un caractère difficile?
Ah, merci Jody. Je crois que cette question-là est une question à laquelle on ne peut pas répondre facilement, parce que souvent, quand nous cataloguons les personnes, nous avons de temps en temps des préoccupations personnelles qui font que on les traite de difficiles, même quand ils ne sont pas difficiles.
Mmh.
Parfois aussi, on a des préjugés sur quelqu'un quand il réagit devant un problème. Et si on ne l'a pas bien compris, on va les traiter de difficiles. Surtout chez nous au Congo, ici, où on vit dans un environnement où parfois le train de la vie va dans le sens opposé. Il y a un certain nombre de choses que beaucoup de gens trouvent normales et que quelques personnes ne trouvent pas normales. Et je crois qu'on va les traiter de difficiles, on va les traiter de personnes ayant une philosophie trop compliquée, alors que peut-être on l'a pas bien compris.
Mais disons, il y a quand même des gens dans la société que tout le monde qui fait le même constat. Celui-là, il a un seul caractère. Celui-là, il est compliqué. C'est difficile de travailler avec telle ou telle autre personne.
Oui, je crois que jusque-là, on reste dans l'aspect général. Qu'est-ce qu'on trouve de difficile chez cette personne? Est-ce qu'il communique très peu? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il a l'injure facile? Est-ce que il comprend des travers, est-ce que... C'est pourquoi je crois qu'avant toute chose, il faudra bien faire l'analyse de la situation qui répond généralement à quatre questions.
Mmh.
C'est quoi, c'est qui, c'est avec qui et c'est quand. Ça dépend des circonstances dans lesquelles quelqu'un peut réagir devant un problème. Il va réagir dans quel sens, s'il revient de service fatigué et tout de suite, on commence à lui rapporter les histoires qui se sont passées dans les quartiers ou avec les enfants à la maison, et c'est le moment indiqué. Il est en train de causer avec quelqu'un au téléphone et qu'on veut absolument qu'il interrompe cette communication pour écouter les autres, et s'il refuse, est-ce qu'il est compliqué? Je crois qu'il faudra bien faire la part des choses. C'est quoi qui est difficile dans son caractère? Est-ce vraiment une réaction passagère ou c'est une réaction permanente pour nous permettre de dire « Ah, c'est comme ça qu'il est ». Donc, il faut vraiment faire l'analyse de la situation et découvrir dans quel cas on les traite de difficiles.
Alors, prenons par exemple prenons le cas d'une personnalité agressive, une personne énergique dans l'action et dans les propos. Elle a souvent des expressions violentes, des émotions et parfois blessantes. Alors, avec une telle personne, comment bien vivre avec elle?
Avec une telle personne, je crois que si on les connaît très bien, il y a lieu de l'accepter tel qu'il est. Parce que toute personne a, comme tu l'as dit avant, là, toute personne a sa personnalité, et dans sa personnalité, il y a plusieurs facteurs et plusieurs éléments.
Oui.
Si c'est vraiment comme ça qu'il est, et qu'après ses réactions énergiques, après ses réactions intempestives, on n'a rien cassé, on n'a pas cassé les œufs, je pense qu'il y a lieu de le prendre tel qu'il est, et commencer à cheminer avec lui petit à petit, de telle manière que la vie puisse quand même continuer. Parce que la vie doit continuer à couler. Mais aussi, il faudra à un certain moment chercher à l'aider à changer. C'est ça que nous ne faisons pas souvent. Nous avons l'habitude de traiter quelqu'un de difficile, de le plier, de mettre dans une enveloppe et de l'enfermer dans une armoire. Et désormais, de lui coller un type. Chaque fois qu'il réagit à lui, il a toujours été comme ça. On le laisse dans son coin et en ce moment-là, je crois qu'on ne l'a pas aidé. Si on l'a compris, comprendre, c'est-à-dire prendre avec. Prendre avec, c'est-à-dire accepter quelqu'un tel qu'il est, avant de chercher à le faire changer, avant de chercher à faire changer quoi que ce soit dans son propre comportement. Vous savez, il y a un principe qui dit, je ne peux pas changer tout le monde, mais si je change mes idées et mon comportement, tout va changer autour de moi. Je crois que ceux qui vivent avec cette personne devront se dire, qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui provoque chez lui ce genre de réaction? De telle manière qu'on prenne des précautions, de telle manière qu'on dise, nous devons d'abord changer dans notre façon de vivre avec lui. Si nous changeons, nous, je crois que lui aussi pourra changer par la suite.
Ouais, c'est possible de l'aider, de l'aborder et d'essayer de lui faire voir que ce genre de réaction ou de paroles violentes, c'est pas bon. Ça va faire fuir les gens autour de vous.
Je crois que c'est la dernière étape. La première, c'est chercher à connaître pourquoi et quand. Pourquoi il réagit comme ça et dans quelle situation il réagit comme ça. Et puis, on va fouiller un peu dans ses origines, dans l'éducation qu'il a reçue. Il est né dans quelle famille? Il a grandi dans quelles conditions? Parce que tout ça influence la personne. Est-ce un orphelin? Est-ce quelqu'un qui a reçu un traitement dur? Et que pour rendre cela à la société, il est aussi dur avec les autres. Donc il faut voir un peu dans ses origines. Qu'est-ce qui le font réagir de telle ou telle autre manière? Cela va aider à mieux le comprendre. Cela va aider surtout à mieux l'aimer. Parce qu'après tout, si on découvre qu'il a subi dans son enfance des traitements durs, je crois qu'il faudra lui rendre l'affection. Et si on lui rend l'affection, ce sera la meilleure façon de commencer à le récupérer. Alors, si on a fouillé dans ses origines, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur les préjugés et sur les types. Je crois qu'il faut aller à accepter. Accepter la personne. Et aussi, de temps en temps, provoquer ce genre de situation, il verra les autres personnes réagir comme lui. Je crois que si on provoque ces situations-là en sa présence, avec d'autres personnes, ils vont réagir comme lui. Et je crois qu'il peut lui aussi dire, non, ce que vous avez fait là, c'est pas correct. Dès qu'il a dit ça, je crois qu'on ne doit pas tout de suite le juger. Pour dire, mais vous aussi, vous le faites. En ce moment-là, il va se recroqueviller sur lui-même et il ne pourra pas s'ouvrir de plus en plus pour continuer à changer.
Bien,
il va attendre bien longtemps après pour commencer à lui faire réfléchir sur ses propres réactions, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver, pourquoi ça lui arrive comme ça, et je crois qu'en ce moment-là, la personne peut changer petit à petit.
Jérémy Do nous appelle de Bandongouville. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute. On vous écoute, Jérémy, vous avez la parole. Jerry, vous êtes toujours en ligne.
Allô?
Oui, alors on vous écoute, Jerry.
Nous avons un contexte qui ne comprend pas des choses très faciles. Donc, si vous la posez comme correction, donc il suffit de dire que vous, donc même s'il a tort, même il a raison, il se place, il se passe plus vite que vous. Il ne sait pas quel conseil que l'invité peut vous donner à cet ami.
Vous dites que cet ami, s'il a tort ou pas, il se passe et il fait quoi? Il fait quoi après?
Oui, il se passe. Il a tort. Donc, vous le dites des choses, il ne comprend pas ce division, il comprend des choses très difficiles, mais je ne sais pas. Il est compris de l'indicateur.
Merci. Merci. Isidore Lomanaï.
Oui, merci, Jerry. Je crois que je veux bien comprendre que quand quelqu'un a tort, il n'est pas facile qu'il accepte tout de suite ses manquements. Moi, je crois que ça dépend des conditions dans lesquelles on lui fait des reproches, on lui fait prendre la conscience qu'il a tort. Mais est-ce qu'on lui fait même prendre la conscience ou on veut seulement le cataloguer et lui dire tu as tort, tu es mauvais? Je crois qu'il faut bien l'étudier et échanger des manières de l'aborder. Et quand il a posé un acte pour lequel on n'est pas d'accord, peut-être qu'il n'aime pas qu'on le corrige sur le champ. Peut-être qu'il n'aime pas qu'on lui fasse des remarques en présence d'autres personnes. Je crois que même la Bible dit, si un ami est dans une faute, il faut d'abord le prendre à côté, seul à seul, on parle avec lui, et s'il ne change pas, on prend une deuxième personne, on le prend toujours à côté, on ne lui fait pas de remarques en présence d'autres personnes. Parce que souvent, nous qui faisons des remarques, nous avons l'habitude de vouloir enfermer quelqu'un dans son caractère, au lieu de l'aider à mieux voir. Parce que parfois on est aveugle devant son propre comportement, devant sa propre réaction. Parfois on est aveugle. Mais si on le prend un ou deux jours après, on dit, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là? Comment est-ce que vous aviez réagi? Est-ce que vraiment vous trouvez que ce que vous avez fait, vous avez bien fait? Est-ce que vous n'avez pas vu telle ou telle autre conséquence? Je crois que si on fait réfléchir quelqu'un, parce que la personne humaine est capable de réfléchir, si on lui fait réfléchir sur ce qu'il a fait, il pourra peut-être prendre conscience petit à petit qu'il réagit mal. Mais si on lui dit sur le champ, tu as mal réagi, ce n'est pas comme ça. Je crois que cette manière de faire va plus l'enfoncer que l'aider à évoluer et à peut-être échanger petit à petit.
Bien, Gervais Kenny nous appelle de Kindu au Manema, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Gervais.
Bon, moi, je voudrais seulement que je voudrais poser la question auprès de l'intervenant, hein, parce que nous avons déjà vécu beaucoup de temps et vivre avec des personnes qui ont eu des moyens, qui ont eu la chance de vivre dans de très belles familles.
Mmh.
Et ils ont eu quand même la chance d'être nickel, où ils ont des moyens, ils gagnent beaucoup de choses, mais vraiment dans une bonne condition. Et on le trouve souvent avec toute cette expérience, une personne fermée, une personne difficile. Donc je voudrais que l'intervenant me parle un peu, qu'il nous montre des techniques que nous pouvons quand même adopter pour vivre avec de telles personnes, parce que ce sont souvent des personnes qui ont une autorité, parce qu'il vient de dire tout de suite là, il dit, il faut chercher des moyens, des temps pour dire à un frère, à une personne, on peut le trouver à un certain moment, il est malaise, il est quoi.
Oui.
Est-ce que nous, comme subalternes, nous pouvons avoir la chance de blâmer un chef ou un supérieur ou une autorité? Ils ont toujours eu leur autorité à leur place et nous ne pouvons pas avoir la chance de blâmer sur ces gens. Nous voulons que nous ayons des mécanismes par rapport comment nous pouvons vivre avec de telles personnes, comment nous pouvons adopter des mécanismes pour qu'on soit vraiment en bon terme avec eux.
Merci Gervais. Tali, vous êtes à Arou, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour à l'advocaté, bonjour à l'invité.
Alors nous parlons de comment bien vivre avec des personnes à caractère difficile. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Oui, j'ai trois petites questions que je voulais poser à l'invité. D'abord, après tout, bonjour à l'invité, à tous les systèmes de l'advocaté.
Oui, allez-y.
Oui, la première question est celle-ci. Est-ce que le caractère difficile d'une personne peut-il changer? Ça, c'est la première question.
Oui, deuxième.
Deuxième question, est-ce que le caractère est inné ou acquis?
Troisième.
Oui, la dernière préoccupation est-ce que la base de cette difficile?
Merci, Tali.
Isidore
Lomanaï.
Oui, merci, Jody. Je crois que notre ami de Maniema a présenté le cas de quelqu'un qui a quand même bien vécu dans un milieu où il n'a pas connu beaucoup de difficultés, mais il reste fermé, il est autoritaire. Et même il se pose la question de savoir si on peut blâmer une autorité. Mais écoutez, si quelqu'un reste fermé, je crois qu'il ne restera pas fermé toute sa vie. Il y aura toujours des moments où il peut s'ouvrir. Et il y a aussi des gens envers qui il peut s'ouvrir. Parce que vous savez, il n'est pas facile de s'ouvrir à toute personne. On s'ouvre qu'à quelqu'un avec qui on a une certaine confiance, on a une certaine intimité.
Oui.
Si la personne reste fermée, il a ses problèmes, qu'il ne veut pas communiquer avec les autres, je crois que la première chose, c'est de le laisser tranquille. Il ne faut pas trop aller le secouer. Je crois que si vous le secouez, il risque de sortir des bavures. Et quand il soit débattu, ça va brûler les gens qui se trouvent autour de lui. Et, mais si ce problème-là le ronge de temps en temps, vous verrez qu'il va chercher lui-même à s'ouvrir à quelqu'un.
Alors, les personnes qui sont souvent fermées, est-ce que c'est des personnes qui ont, dans leur enfance ou au cours de leur vie, ils ont eu beaucoup de blessures ou de problèmes?
C'est fort possible. Vous savez, dans la petite enfance, là, on ne laisse pas à l'enfant la possibilité de s'exprimer. On ne provoque même pas que l'enfant s'exprime. Chaque fois que l'enfant veut dire quelque chose, on lui dit tais-toi. Vous voyez? Quand chaque fois l'enfant a un avis à émettre, on lui dit mais qu'est-ce que toi tu as à dire? Alors il y a des personnes qui, de l'intérieur, quand il ne sait pas s'exprimer, dès le bas âge là, il grandit avec et il reste fermé. En ce moment-là, il faut aller remuer quelque chose qui puisse le rendre gai, qui puisse, à un certain moment, lui permettre de s'ouvrir. Vous savez, nous avons eu une expérience, une belle expérience ici à Mouzmari avec des albinos.
Oui.
Les albinos sont des personnes fermées, qui se stigmatisent elles-mêmes. Mais au cours de nos échanges, au cours des ateliers que nous avons eu avec eux, ils ont eu l'occasion de s'ouvrir. Oh, mais quand on a lu dans leurs âmes, ce sont des blessures sur blessures. Donc je crois que ce que j'ai dit avant là, c'est vraiment utile. Il faut comprendre la personne, il faut l'accepter tel qu'il est, et il faut voir dans quelles conditions, vis-à-vis de ce qu'il est, dans quelles conditions on peut agir dans un sens ou dans un autre.
Alors,
parce que donner des techniques ici, c'est pas très facile.
Mmh.
Parce qu'il faut vivre avec la personne. Il faut l'étudier. Il faut découvrir vraiment qu'est-ce qui peut le faire renouer, qu'est-ce qui peut le faire changer et le faire accepter de pouvoir s'ouvrir ou même accepter qu'il a commis une faute quelque part et que l'on puisse continuer à vivre ensemble.
Alors,
Blâmer une autorité, bon, je crois que le mot blâme n'est pas à sa place. C'est peut-être faire des remarques à une autorité, mais il y a autant d'occasions que l'on peut parler avec une autorité. On peut lui dire, est-ce que chef, est-ce que vous pouvez me donner quelques minutes? Je viens parler avec vous dans votre bureau. Si vous donnez ces minutes-là, ramassez votre courage et allez lui dire, nous vivons avec vous depuis très longtemps. Nous avons remarqué chez vous telle chose. Je crois que dans le groupe ici, on en parle. Mais moi, j'ai décidé de venir vers vous. Je crois qu'en ce moment-là, c'est un être humain. Il ne va pas manger les gens, même s'il a son autorité. Mais n'allez pas les condamner. C'est ça que nous avons comme faiblesse.
Mm-hmm.
Quand nous avons à aider quelqu'un à aller de l'avant, nous commençons par le condamner. Et écoutez, quand on condamne quelqu'un, c'est fini, il se renferme sur lui-même. C'est fini, il peut même vous dire, oui, je vous ai écouté, maintenant, levez-vous, rentrez dans votre bureau.
Mm-hmm.
Donc, il ne faut pas le condamner. Il faut faire un constat avec lui et lui laisser la possibilité de dire, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? En ce moment-là, si lui-même peut arriver à dire, c'est bon ou c'est mauvais, il peut répondre sur place. S'il peut dire, bon, je vous répondrai par après. Vous lui dites merci et vous dites, bon, chef, c'est tout ce que j'étais venu vous dire. S'il y a moyen de voir de votre côté, comment améliorer l'une ou l'autre chose de telle manière que la vie ici puisse continuer.
Isidore Lamalaye, avant de répondre aussi à la question de Talia Arou, nous avons des autres auditeurs en ligne. Placide Macarios nous appelle de Lumumbashi, Eric Chama. Dès qu'il fait ça, vous voulez également participer, composez le 081-890-6394.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Comment bien vivre avec des personnes à caractère difficile? Placide Macarios de Lumumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Mon cas est très compliqué.
Oui.
Vous devez demander à l'invité quel est le conseil qu'il peut me donner parce que je ne parviens pas à comprendre. Mais mon fils est né.
Oui.
Il est né dans ma famille. Il est le quatrième. Il a fait des études supérieures. De ma féminité jusqu'à l'université, il était ventilé. À l'université, c'est lui, dans la chambre, tout ce qu'on était là, il avait tout, le frigo, le congélateur, et tout. L'enfant a terminé les études en 1990.
Oui.
Il est grand directeur dans une grande société. Quelle est ma surprise? Moi et ta mère, quand nous arrivons chez lui, vous faites le jour, le jour chez lui, deux jours ça va. C'est bien. Après trois jours, il vous considère. Mais maintenant avec ses frères, toute la famille, il a des frères qui ont terminé comme lui, qui sont universitaires, mais dans sa direction des services du travail, il engage tout le monde. Tout le monde là, que ce soit des copains, des copines, des amis, des amis. Mais des frères qui ont fait un travail. Vous lui demandez et il est de temps. Alors, là où il est dans une vie, quand tu as des, celui qui fait les deux frères de tout le monde. Et la famille, les proches, ne voient rien. Depuis que j'ai s'engagé là, depuis le mois, j'ai des costumes. Et quand vous sortez, vous arrivez chez lui, il vous loge dans un hôtel ou une petite bouteille d'eau à boire ici, qui coûte 5 francs, qui coûte 4 dollars.
Oui.
Et moi, le papa, quand je suis dans cet hôtel, j'ai dit non, je suis à la maison de tout. Posez-moi dans un hôtel de 30, 40, 50 dollars.
Oui, merci Monsieur Placide. Nous comprenons votre préoccupation. Vous avez un fils qui
est très compliqué.
Oui, il est très compliqué.
Ce qu'il supporte, lui, c'est la famille de sa femme. Sa mère, sa belle-mère, ses belles-sœurs, il achète des maisons pour ses fils, la maison. Mais nous, jamais. Et lui, même les enfants de ses frères, il les supporte.
Merci, M. Placide. Oui, merci bien. Merci. Nous avons compris votre préoccupation, votre enfant qui a changé de comportement, qui ne vous supporte pas, qui ne veut pas aider ses frères. Eric Chimanga, Chimanga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour l'invité.
Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Oui, j'ai une question avec l'invité. Il a dit pour les personnes avec le vie compliquée, ouais, il faut suivre les origines. Alors j'ai une question pour lui. Quelles sont les origines que l'on peut trouver les personnes avec les vies les plus compliquées ou les personnes les plus incompréhensibles? Quelles sont les origines qu'ils nous donnent? Alors, si une personne est une famille et qui a une famille noble, cette personne ne peut pas avoir des vies compliquées, soit bloquée, ou quelle est cette personne qui vit dans une famille noble? C'est ça ma réaction.
Merci à Eric Chamanga. Steve Ntumba et Kananga, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute, Steve.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à l'invité.
La
première, je voulais demander quelles sont les stratégies que l'invité peut nous donner pour aider quelqu'un qui est égoïste à devenir aussi social. Et puis la deuxième question, c'est toujours au niveau des stratégies. S'il peut encore nous donner des stratégies pour aider quelqu'un qui a toujours un caractère qui parle toujours des problèmes des gens, de poser des gens dans les quartiers, et si il n'a pas de preuves concernant les problèmes dont il parle. Voilà les deux questions que j'avais à poser à l'invité.
Merci, Stéphane Ntumba. Isidore Bamanaï.
Merci, merci Jody. Merci à tous les intervenants. Je crois que les cas que l'on présente, ce sont des cas qui font que même les personnes qui ont des caractères difficiles, qui nous écoutent maintenant, peuvent se rendre compte de comment autour d'eux il y a des gens qui souffrent à cause de leur caractère. Mais notre ami de Haru, il a dit qu'un caractère difficile peut changer. Bon, je crois que un caractère c'est comme une seconde nature. Il y a des histoires, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des facteurs avec lesquels on est né et qui changent difficilement. Mais j'accepte que même un caractère difficile peut changer parce qu'il y a un dicton dans la vie qui dit il n'y a rien de plus constant que si c'est même le changement. Chaque jour nous changeons, nous rencontrons des situations qui peuvent nous faire réfléchir et en réfléchissant, nous avons la possibilité de changer notre propre comportement. L'essentiel c'est de saisir ces occasions et faire réfléchir la personne qui a un caractère difficile.
Alors, Tal Idéharou a ajouté, il dit, hein, qu'est-ce qui peut rendre un caractère difficile?
Qu'est-ce qui est à la base? Plusieurs choses peuvent être à la base. Il y a les conditions dans lesquelles on a été conçu. Il y a les conditions dans lesquelles on a vécu les 9 mois dans le ventre de sa mère, dans le sein de sa mère. Il y a les conditions dans lesquelles on est venu au monde. Il y a l'environnement familial. Il y a les amis dans les quartiers. Il y a toutes les situations de malheur qui peuvent abattre une famille, qui peuvent faire que chez quelqu'un qui ne peut pas digérer telle ou telle autre situation, ça provoque chez lui un caractère difficile.
Alors, Placide Mbassi nous parle de son fils qui est devenu directeur aujourd'hui, qui ne supporte pas sa famille, qui ne veut pas aider ses frères ni ses parents. Quand il vient chez lui, il manifeste un comportement que les parents n'acceptent pas. Et ben, il est beaucoup plus attaché à la famille de sa femme. Et le papa se plaint.
Oui.
Et il demande ce qu'il peut faire.
Il a raison de se plaindre. Quand on a un fils qui est mieux positionné dans la société, les autres membres de la famille peuvent dire, à travers lui, on peut accéder à l'une ou l'autre chose, à un travail, à avoir, résoudre tel ou tel autre problème, s'il y a des cas de maladie, s'il y a tel ou tel autre problème, on a arrêté quelqu'un, il faut intervenir. Quelqu'un qui est directeur dans une entreprise, qui tourne le dos à sa propre famille, je crois qu'il est en train de se mettre dans une situation très compliquée. Parce qu'à un certain moment, il va se rendre compte qu'il aura besoin de membres de la famille. Moi, je voudrais ici parler un peu plus à ses directeurs. Qu'est-ce qu'il croit, lui? C'est sa mère qui a trimballé avec lui dans son sein. C'est sa mère qui n'a pas pu dormir quand il était bébé et qu'il était malade. C'est sa mère sur qui il a uriné. Je crois qu'il ne doit pas s'enfermer. Si c'est sa femme qui l'influence, je voudrais aussi dire à cette femme que dans sa famille, il y a des hommes. Si ces hommes se comportent comme ça, je crois que cette femme ne sera pas d'accord que dans la famille de ses frères, que ses frères à elle, n'interviennent que dans les cas de la belle famille et non pas dans ces cas à lui.
Alors, M. Placide est choqué. Le comportement de son
fils. M. Placide doit continuer à aimer son fils. S'il est chrétien, je lui demande de prendre patience et de parler à Dieu pour que Dieu puisse toucher l'âme de son fils. Et là, il faut vraiment beaucoup de patience. C'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Mais il faudra aussi étudier comment il vit avec sa femme. Sa femme est sortie de quelle famille? Est-ce une famille où peut-être on fait des gris-gris? Est-ce qu'elle n'a pas fait des gris-gris pour son fils? Tout ça, je crois qu'il faut qu'il prenne patience. La fille, qu'il prenne patience, mais qu'il parle à Dieu s'il est vraiment chrétien, qu'il parle à Dieu. Mais qu'il parle à Dieu avec amour, qu'il n'haïsse pas son fils. Il doit continuer à l'aimer. Il n'y a que l'amour qui peut changer le cœur des gens. Qu'il vienne chez lui, qu'il puisse l'accueillir avec joie, qu'il puisse faire tout ce qu'il peut faire pour lui. Je crois qu'en ce moment-là, s'il est dans des problèmes et des malheurs, qu'on aille lui rendre visite. On ne doit pas fermer la porte entre un fils et les parents.
Bien, avant de répondre aux autres intervenants, Prosper Abériani nous appelle de Kindu, au Manima, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
On vous écoute, Prosper.
Bon. Merci beaucoup de la parole. Bon, j'aimerais un peu que l'intervenant du jour puisse un peu nous définir d'une manière concrète le caractère difficile, c'est quoi? Ça, c'est la première préoccupation. De deux, nous sommes dans un pays là où les antivaleurs sont devenus la règle d'or dans la société. Et quand vous abstenez de ces antivaleurs, la majorité des gens qui appliquent cette règle d'or vous prennent des mauvais. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à quelqu'un qui s'abstient aux antivaleurs?
Merci, Prosper Abériani de Kindu, Manima, Isidore Mamana, il y a Eric de Kinshasa qui avait posé la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut suivre les origines de la personne parce que son caractère difficile peut être lié à ses origines. Alors comment arriver à le faire?
Oui, merci Eric, je crois que les origines sont connues. J'ai parlé de la famille, c'est de là que l'enfant vient au monde. Il faut vraiment analyser dans cette famille quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde. J'ai dit tout à l'heure quelles sont aussi les conditions dans lesquelles l'enfant a été conçu. Quand il avait été conçu, est-ce qu'il avait été accepté par les deux parents? Parce qu'il y a parfois, quand il y a une grossesse, on commence à se rejeter la responsabilité. Je crois que tout cela a de l'influence sur la vie de l'enfant qui, déjà dans le sein de sa mère, a des relations avec le monde extérieur. Donc, il faut vraiment voir dans la famille. Ensuite, quels sont ses amis, quels sont les copains de classe, quels sont dans quel environnement, dans le quartier, là, il y a quelles habitudes. Donc, surtout, c'est surtout en famille qu'il faut chercher comment cette personne qui est partie de sa famille, tout bébé est là, il en est sorti où il a encore 18 ans, il est encore dans sa famille. Comment est-ce que les choses se passent à ce niveau-là?
Mais parfois, Et si la personne est un adulte qu'on rencontre quelque part, on ne connaît pas d'où il est, sa famille, où est-ce qu'il a vécu, parfois c'est difficile d'avoir toutes ces informations-là.
Oui, je crois que c'est difficile d'avoir toutes ces informations, mais à un certain moment, on procède à une cure d'âme. On fait parler la personne elle-même. Quand on touche un peu à ce corps de sensible, il peut commencer à dire comment il est venu au monde, comment il a été accueilli dans la famille, comment il a vécu. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu sa mère alors qu'il avait que 2 ans ou 3 ans, qui a été élevé par une marâtre. Et qu'entre la marâtre et lui, il y a beaucoup de choses
qui se sont passées
sur son cœur. Si on fait parler la personne elle-même, je crois avec amour, avec respect pour sa dignité, il pourra révéler autant de choses. Alors, on pourra me mettre sur tout. Ah, maintenant, on vous comprend.
Oui.
On ne savait pas que c'était comme ça.
Voilà, il y a également Pierre Ntumba de Kananga qui dit comment aider un égoïste. Quelqu'un dans le quartier qui fait le colportage et qui oppose les gens. L'amener à changer?
Oui. L'égoïste, je crois que la meilleure des choses, je sais qu'on ne va pas très bien me comprendre, la meilleure des choses, c'est de continuer à être généré avec lui. Si on continue à être généré avec lui, il pourra peut-être être interpellé, il pourra peut-être dire, ah, quand eux, ils ont des problèmes, je n'interviens pas, mais quand moi j'ai un problème, je vois des gens qui interviennent. Mais il y a aussi parfois des situations où on peut faire réfléchir quelqu'un. Je connais une histoire à Mouenidito où quelqu'un se suffisait à lui-même, il disait que personne n'arrive chez moi, je n'ai pas besoin de voisins. Quand il y a deux, il ne va pas rendre visite aux autres.
Oui.
Mais malheur lui est arrivé, son enfant est mort. Tous les voisins sont venus vers sa parcelle, mais il se tenait en dehors de la parcelle. Dès qu'il sort pour une course, on lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Nous avons déjà acheté le cercueil. Il prend le cercueil, dès qu'on apprête l'enfant, les gens restent en dehors de la parcelle. Dès qu'on sort avec l'enfant, ils prennent le cadavre dans le cercueil, on va l'enterrer. On rentre avec lui à la maison, il entre dans sa parcelle, les gens veulent rentrer, c'est alors qu'il sort pour dire, écoutez mes chers amis, entrez dans ma parcelle, si vous partez, je vais me pendre. C'est ce que j'ai dit, il faut provoquer des situations où la personne qui agit de telle ou telle autre manière, on lui donne l'occasion de réfléchir.
Alors, pour quelqu'un,
toucher sa conscience.
Celui qui fait le colportage dans le quartier, là, qui oppose les gens, comment les
faire? Bon, celui qui fait le colportage,
oui,
on doit lui parler sincèrement, et on doit absolument lui dire que faire le colportage, c'est un feu que l'on met à un village. Parce que parfois, dans le colportage, on raconte même des mensonges. On ne raconte pas la situation telle qu'elle s'est passée. Donc, je crois qu'à celui-là, il est mieux de l'approcher et de lui dire, voilà ce que vous aviez raconté là, voilà les méfaits, voilà les conséquences dans cette famille-là. Vous avez fait des colportages, voilà les méfaits, ce que vous avez dit a entraîné le divorce dans cette famille-là. Ce que vous avez raconté sur telle fille que vous avez vue sur la route avec un garçon, voilà que son père l'a renvoyé de sa famille. Est-ce qu'elle pourra venir vivre chez toi? Je crois que si on lui parle comme ça, avec des cas précis, on lui montre les inconvénients de son colportage, je crois que son âme, son cœur, sa conscience peut être touchée, il pourra peut-être changer.
Alors, et Prosper de Kindou, on va terminer avec lui, il dit, c'est quoi avoir un caractère difficile? Et il dit, aujourd'hui, dans la société, les antivaleurs sont devenues des règles d'or. Alors, une personne qui se comporte bien, comment peut-il, qu'est-ce qu'il doit faire dans un tel environnement?
Je crois que Prosper a raison. Je crois que ce qu'il cherche à savoir, ce n'est pas tellement la signification d'un caractère difficile. Parce que quand je l'ai écouté parler, je crois qu'il a un bagage qui lui permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un caractère difficile. Depuis le début de l'émission, nous avons essayé d'évoquer des cas où il y a des caractères difficiles. Mm-hmm. Je crois qu'il s'est référé à ça. Mais j'atterris dans sa préoccupation les antivaleurs. Je l'ai évoqué au début de l'émission. Nous vivons dans un monde où ce qui est vice est devenu vertu et ce qui est vertu est devenu vice. On détourne, on trouve qu'il n'y a pas de problème. Hein? On est dans le vagabondage sexuel, on trouve qu'il n'y a pas de problème. On est en train de mentir, on dit, on trouve qu'il n'y a pas de problème, on peut mentir pour se sauver. Dans un monde comme celui-là, il n'est que normal que quelqu'un qui agit autrement sera pris pour quelqu'un de difficile, alors que lui n'est pas difficile. Ce sont les autres. Vous savez, Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Les autres me voient avec quelles lunettes. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent me coller telle ou telle autre étiquette, alors que réellement, à moi-même, ce que je fais, je suis convaincu que je suis dans le bon. Écoutez, Prosper, quand vous êtes dans le bon, maintenez-vous dans le bon reste le bon, le mal reste le mal, même s'il est accepté par tout le monde. Je crois que quand vous restez dans le bon, ceux qui sont dans le mal, à un certain moment, pourront dire « Ah, Prosper avait raison, nous pouvons faire comme lui. »
Bien, Isidore Bamanaï, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous retrouvons que vous êtes éducateur à la vie, intervenant depuis Bujimaï dans la province du Kassai oriental. Merci et à la prochaine.
Merci et au revoir aux auditeurs de la radio.